Il me semblait que les critiques poétiques, en reniant ainsi la nouvelle poésie ouverte et la liberté d'esprit, de désir, d'imagination, préparaient le terrain mental pour la répression de la liberté politique à long terme. Une liberté politique qui ne pouvait être défendue que par l'imagination, imperturbable, libre, audacieuse, humoristique, la mentalité de champ ouvert, la poétique de champ ouvert, la démocratie de champ ouvert. Voici un extrait d'un essai qu'on pourrait traduire par « Quand les méthodes musicales changent, les murs de la cité tremblent » ou « When the mode of the music changes, the world of the city shakes » de Allen Ginsberg, dont il va être question dans cet entretien, avec Dominique Delpirou, passionné de littérature, ancien président de l'association Carambolage à Soubesse, qui viendra nous proposer une lecture à la Musebrock de l'Odève le 16 novembre à 18h.
Bonjour, bonjour Dominique. Bonjour Samuel.
Alors déjà, un grand plaisir en effet de parler de cet auteur. Hein,
un plaisir partagé.
Voilà, de la Beat Generation des années 60, de la liberté de ton, de forme et de cet exutoire tout d'un coup. Peut-être on pourrait commencer en effet par cette association Carambolage qui était à Soubesse, qui aujourd'hui est dissolue, mais on continue quand même à faire vivre la littérature.
Oui, on continue de faire vivre la littérature malgré cette décision qui était inévitable, faute de soutien et faute d'énergie neuve. Voilà, il était nécessaire de faire le point. Nous l'avons fait et nous avons conclu que la meilleure solution était la dissolution de l'association. Cette association a vécu pendant 6 ans. C'est-à-dire quasiment depuis que je suis arrivé dans l'Odévois. Bon, elle a fait, elle a porté de nombre de projets. Bon, aujourd'hui, on passe à autre chose.
Vous aviez déjà mis en lecture des auteurs sulfureux tels que Pasolini l'été dernier.
Absolument.
Et là, on continue justement cette exploration des mots et d'auteurs un peu révolutionnaires dans leur âme, on va dire.
Oui, tout à fait révolutionnaire, oui. Oui.
Ginsberg, Allen Ginsberg, encore une fois, de la Beat Generation, grand ami, amant de Kerouac.
Grand ami, oui. Amant, non.
D'accord.
Je ne crois pas.
Non. Et d'autres auteurs qui partaient, qui défendaient justement la liberté de partir avec son sac à dos et d'explorer sa psychologie, son être, via la littérature, les drogues ou autres. Comment on pourrait les définir, tous ces auteurs de la Beat Generation?
Oui, le voyage, c'est très juste. C'est le voyage géographique. Hein. Mmh. Ils ont beaucoup voyagé. Ils sont allés très souvent au Mexique, par exemple, mais pas seulement au Mexique. Ouais. Et le voyage intérieur, tout à fait, ça c'est je crois que c'est sans doute le voyage intérieur qui est le plus important, c'est-à-dire accéder à sa propre vérité, en tout cas essayer d'accéder à sa propre vérité, face à un monde qui, vous l'avez dit avant, face à un monde très dur, très cruel, et qui finalement sépare le corps et l'esprit. Je crois que c'est très important.
Donc cette idée aussi de retrouver sa propre spiritualité.
Tout à fait, sa propre unité, okay. Et sa propre spiritualité, en utilisant, je dirais, tous les moyens possibles. Oh. En tout cas au départ, s'agissant okay. de Ginsberg, hein, parce que Ginsberg a évolué. Il est devenu un authentique bouddhiste et donc il s'est assumé comme bouddhiste. Il a donné des cours tard dans sa vie, mais il a donné des cours de bouddhisme dans une université dont il avait été l'un des fondateurs. Mais disons dans les années 50-60, au moment où il écrit Howl, c'est vraiment l'utilisation de tous les moyens, la sexualité, la spiritualité... la drogue, c'est vrai, et voilà, autant d'outils pour essayer de dépasser les contraintes, les conventions matérialistes.
C'était un auteur, on va dire, qui fricotait avec la folie d'une certaine manière.
C'est très juste. C'est très juste, il a fricoté avec la folie. Sa mère, à la fin de sa vie, était folle. Folle au sens où on l'entend de manière générique. Hein. Je n'ai rien contre la folie, hein, m'empresse de le dire. Il a rencontré aussi Carl Solomon. Il l'a rencontré dans des conditions assez particulières, puisqu'ils se sont rencontrés dans un hôpital psychiatrique. Et Carl Solomon était un être extrêmement cultivé, qui avait aussi beaucoup voyagé, qui avait beaucoup lu, les auteurs français en particulier, je pense à Rimbaud, etc. Enfin, c'était pas le seul. Et il est devenu très très ami avec Ginsberg, c'est une amitié très très forte. Et d'ailleurs, le poème est effectivement dédié à Carl Solomon.
Et Ginsberg, passionné, un mangeur de littérature, qui aussi était influencé donc par Rimbaud. Il y a eu Jean Genet, Henri Michaud et Antonin Artaud aussi.
Tout à fait.
Donc il ne cessait de lire aussi à travers ses aventures, à travers son écriture.
Exactement. Et dans ce poème, évidemment, on n'a pas le temps là d'en parler précisément, mais il y a des tas de références à des poètes, parfois des références implicites, mais des références à des poètes français. Bon, bien sûr, ceux que vous avez cités, mais aussi des poètes anglophones très très importants. William Blake, par exemple, très très important pour Ginsberg. Mais c'est pas le seul. Enfin, il y en a beaucoup d'autres.
C'est depuis le début des années 2000 déjà que vous aviez entrepris donc de traduire le fameux texte Hall.
Tout à fait, parce que j'avais le désir de le lire en public et il existait une traduction qui ne m'allait pas. Elle passait mal en bouche, comme disent les acteurs. Donc je me suis mis à la traduction avec une amie américaine, Sonia Haaland. Et on a traduit effectivement ce poème. Et puis on a eu envie de le publier. Ça n'a pas été possible pour un certain nombre de raisons. Mais nous l'avons lu de temps à autre. Et il est toujours là, non seulement dans ma bibliothèque, mais dans mon cœur, je puis dire.
Alors que l'oralité fait aussi partie prenante dès l'écriture de son texte.
Elle fait partie intégrante. C'est vraiment un texte qui peut être lu dans le silence de la chambre, comme dirait Mallarmé, mais c'est vraiment un texte à lire à voix haute. Oui.
Et comment on arrive à ne pas perdre pied en traduisant un tel auteur ?
C'est très difficile, vraiment, parce que la langue de Ginsberg, c'est une langue qui déstructure souvent l'anglais. Hein. C'est un anglais déstructuré, avec de nombre de métaphores, pas toujours simples à traduire. Et c'est un travail relativement complexe pour le traducteur. D'autant que lorsqu'on le lit, l'anglais a une tonalité, je dirais, relativement égale. Avec des sonorités, il a vraiment utilisé des sonorités qui sont très importantes dans la lecture. Le français, c'est une langue, je dirais, plus lente, qui a un flux plus lent. Et on ne peut pas courir après l'anglais. Mais c'est la raison pour laquelle on a décidé de proposer une lecture bilingue. Faire entendre l'anglais, faire entendre le français.
Et il était déjà conscient, Allen Ginsberg, de ce besoin de déstructuration, de tout ce qui fondait un peu la littérature jusqu'à présent.
Oui, je crois. C'était remettre un peu les choses, se remettre à l'ouvrage. Hein. Non pas qu'il voulait détruire la littérature classique, pas du tout la littérature. D'ailleurs, on a dit de lui que c'était un classique, finalement. Bon, avec un peu de retard. Allez. Mais il est devenu un classique. Non, loin de lui, l'idée de détruire vraiment les œuvres classiques. Mais de faire autre chose. De s'emparer de la langue d'une autre manière.
Puis, les figures dont il est question dans le texte, c'est vraiment la culture underground du peuple vraiment
tout à fait
pauvre qui se débat.
Bien sûr, il y a évidemment ce terreau et aussi une dimension très importante qui est une dimension musicale, c'est le jazz. Le jazz, c'est un poème, je pourrais dire, hein, enfin c'est un poème jazzé.
D'où le fait que ce soit une lecture musicale aussi.
D'où le fait que ce soit une lecture musicale.
Okay.
Exactement. Mais Il est très important que la musique ne couvre pas, n'annule pas la musique du texte. Mmh. Et ça, c'est un exercice difficile.
Alors là, on n'a pas votre traduction à présent dans le studio, mais on a quand même imprimé un bout de texte d'une autre traduction.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a un petit passage que vous pourriez nous lire ?
Que les quelques lignes du début.
Pour donner un peu hein, cette
ambiance. Et voilà, et il est habituel de citer le nom du traducteur ou de la traductrice, hein, donc je le fais aussi, Émilie Arsenault, qui a d'ailleurs écrit un mémoire sur Howl. Pour Carl Solomon. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre, initiés à tête d'ange, brûlant pour la liaison céleste ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne, qui, pauvreté et haillons, et œil creux et défoncé restèrent debout, fumant dans l'obscurité surnaturelle des chambres bon marché, flottant par-dessus le sommet des villes en contemplant du jazz, qui dénuèrent leur cerveau aux cieux sous le métro aérien et virent des anges d'islam titubant illuminés sur les toits des taudis.
Ah, tout est dit. Ça, ce n'est que le début et ça va aller justement en se cumulant avec
crescendo,
d'autres figures qui vont revenir.
Ouais. Il y a un mot qui est très important, c'est illuminé, parce que je crois que là, on parlait de Rimbaud, les illuminations de Rimbaud. Okay. Et les illuminations de Rimbaud, c'est aussi d'une certaine manière les illuminations de Ginsberg.
Et il y a quelque chose de très enveloppant, de très fumeux, quoi, presque.
Oui, oui.
Comme si une fumée d'opium, peut-être.
Oui, c'est ça. Comme... Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, aussi, dans le parti pris que vous aviez pris dans votre traduction, c'était aussi de mettre des notes à côté, de faire apparaître aussi quelle référence, qu'est-ce qui a pu l'animer à ce moment-là pendant l'écriture.
Oui, parce que c'est ça qui est vraiment important, quel est le ressort, quel est le moteur. Howl, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, hurlement. Hein, c'est, alors, hurlement ou un cri, mais un cri très puissant. Et alors, ce cri, d'où il vient, où il va? Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Hein. Okay. Il y a beaucoup. Ce qu'on peut quand même dire très rapidement, c'est que bon, c'est un cri contre l'Amérique telle qu'elle est au moment où il écrit. C'est-à-dire l'Amérique capitaliste, déshumanisante, qui refuse, ou en tout cas qui ne donne pas toute sa plénitude aux valeurs que défendent ces poètes, tous ces poètes, et notamment Allen Ginsberg.
Valeurs que vous défendez également ?
Valeurs que je défends dans un tout autre contexte.
Oui.
Hein, dans un tout autre contexte. Donc on ne peut pas dire on prend ça du passé et on le transporte aujourd'hui. Mais sur le fond, c'est-à-dire la recherche des valeurs d'humanité, d'égalité, de charité, c'est un mot qu'il utilise, hein, la charité. Hein, okay. Vraiment, la charité, on n'entend plus aujourd'hui, en fait, très peu. Quoi. Et c'est un mot qu'il utilise, d'ailleurs Rimbaud l'a utilisé aussi. Ça, c'est très important, l'écoute de l'autre, le partage avec Solomon, l'amitié. C'est un poème de l'amour et de l'amitié.
D'ailleurs, le 16 novembre, c'est un texte que vous allez partager avec trois autres lecteurs. Théo Libardot, Roger West et Domi Nicella.
Alors, je dis simplement, je lis le texte avec Roger West.
Okay.
Roger lit la version originale.
Ah, très bien.
Je lis la traduction française.
Génial.
Théo Libardot est musicien, donc il apporte la musique et Domi Nicella apporte son chant.
Roger West, qui est écossais, donc il aura toute la forme, la prononciation faite pour le texte.
Oui, et le compagnonnage ouais. avec les poètes de la Beat Generation, parce que c'est un grand connaisseur de cette période et de ces poètes.
Et qu'est-ce qu'ils jouent comme instrument, les deux musiciens ?
Guitare, piano électrique, en particulier, voilà.
Donc un peu jazzy aussi
un peu jazzy, un peu de blues, un peu, voilà.
Est-ce qu'il y aura un échange de rencontres aussi après la lecture ?
Ah bien sûr, on est tout à fait ouvert. Non seulement on est ouvert, mais on souhaite vraiment que les gens qui seront là participent et qu'ils nous fassent part de leur réaction par rapport à ce texte qui a été tellement révolutionnaire qu'il a été censuré, hein, comme vous savez, pendant un certain temps. Et qu'il dit des choses, je crois, très actuelles.
Ah ça, sur la pauvreté, la dureté, le monde, la cruauté du monde. Oui. Ce sera donc à l'Amuse-Brock, à l'EDEV, le 16 novembre à 18h, l'entrée est libre. Ça c'est chouette.
L'entrée est libre.
Prévoyez quand même un petit temps pour digérer derrière, parce que je suppose qu'à encaisser ça doit pas être évident.
C'est pas du tout évident, c'est pas du tout évident, effectivement, un temps pour digérer tout ça et cheminer.
On sera sur combien de temps à peu près pour vous en lecture ?
Une petite heure.
Une petite heure, ouais, très bien. Et ça va, vous vous sentez aussi prêt ? Vous avez répété tous ensemble ?
Oui, nous avons répété tous les quatre. J'allais dire tous les cinq parce que j'y associe Ginsberg qui est évidemment
qui sera avec nous aussi.
Il sera avec nous et on a répété, puis on se sent bien. Voilà, c'est tout ce que je puis dire. Hein. On se sent bien dans ce texte, dans la lecture de ce texte.
On espère aussi que l'extrait vous aura plu. Venez nombreux, si vous ne connaissez pas Allen Ginsberg, c'est vraiment le moment, surtout avec cet espace de traduction et en plus de texte, voilà, un mélange de texte original et de traduction, donc c'est très fort, et en musique, avec cet effet jazzy, avec des passionnés, donc rendez-vous à l'Amuse-Brock le 16 novembre.
Eh bien, merci beaucoup.
Un grand merci Dominique Delpirou, et on se retrouve pour la prochaine lecture.
Merci, à bientôt.
America. America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You made me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. Burroughs is in Tangiers. I don't think he'll come back. It's sinister. Are you being sinister, or is this some form of practical joke? I'm trying to come to the point. I refuse to give up my obsession. America, stop pushing. I know what I'm doing. America, the plum blossoms are falling. I haven't read the newspapers for months. Every day somebody goes on trial for murder. America, I feel sentimental about the Wobblies. America, I used to be a communist when I was a kid. I'm not sorry. I smoke marijuana every chance I get. I sit in my house for days on end and stare at the roses in the closet. Whenever I go to Chinatown, I get drunk and never get laid. My mind is made up. There's going to be trouble. You should have seen me reading Marx. I have mystical visions and cosmic vibrations. America, I still haven't told you what you did to Uncle Max after he came over from Russia. I'm addressing you. Are you going to let your emotional life be run by Time magazine? I'm obsessed by Time magazine. I read it every week. Its cover stares at me every time I slink past the corner candy store. I read it in the basement of the Berkeley Public Library. It's always telling me about responsibility. Businessmen are serious. Movie producers are serious. Everybody's serious but me. It occurs to me that I am America. I'm talking to myself again. Asia is rising against me. I haven't got a Chinaman's chance. I'd better consider my national resources. My national resources consist of two joints of marijuana, millions of genitals, an unpublishable private literature that goes 1,400 mph, and 25,000 mental institutions. I say nothing about my prisons, nor the millions of underprivileged who live in my flower pots under the light of 500 suns. I have already abolished the whorehouses of France. Tangiers are the next to go. My ambition is to be president, despite the fact that I'm a Catholic. America, how can I write a holy litany in your silly mood? I will continue, like Henry Ford. My strophes are as individual as his automobiles, more so they're all different sexes. America, I will sell you strophes 2,500 apiece, 500 down on your old strophe. America, free Tom Mooney. America, save the Spanish loyalists. America, Sacco and Vanzetti must not die. I am the Scottsboro boys. America, when I was 7, Mama took me to communist cell meetings. They sold us garbanzos, a handful per ticket. A ticket cost a nickel and the speeches were free. Everybody was angelic and sentimental about the workers. It was all so sincere, you have no idea what a good thing the party was. In 1835, Scott Nearing was a grand old man, a real mensch. Mother Bloor made me cry. I once saw Israel Amter playing. Everybody must have been a spy. America, you don't really want to go to war. America's them bad Russians. Them Russians, and them Chinamen, and them Russians. The Russia wants to eat us alive. The Russia's power mad. She wants to take our cars from out our garages. Her wants to grab Chicago. Her needs Red Readers' digests. Her wants our auto plants in Siberia. Him big bureaucracy running our filling stations. That no good. Ugh, him make Indians learn read. Him need big black niggers. Ah. Make us all work 16 hours a day. Help. America, this is quite serious. America, this is the impression I get from looking in the television set. America, is this correct? I'd better get right down to the job. It's true, I don't want to join the army or turn lathes and precision parts factories. I'm nearsighted and psychopathic anyway. America, I'm putting my queer shoulder to the wheel.